8h32, c'est la revue de presse de Radio Classique. Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Dans la presse d'aujourd'hui, il est beaucoup question de départ.
Oui, le départ annoncé de Kylian Mbappé d'abord. Il a l'air navré en une de l'équipe, main sur les hanches, lèvres crispées. C'est décidé, je te quitte, titre le quotidien sportif pour confirmer la fin d'une relation quasi amoureuse entre le joueur et le Paris Saint-Germain. C'est beau et triste comme du Gainsbourg.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là venu pour rien changer.
Voilà, c'est la fin d'une romance de 7 ans qui a comporté des exploits, des déceptions, 242 buts et beaucoup d'argent. 72 millions d'euros par an de salaire et de primes pour le joueur, des retombées massives pour le club et toute la Ligue 1 avec les droits de télévision. De fait, si le cas Mbappé est aussi traité dans les échos ce matin, c'est en première page du cahier Entreprise et Marché. Mmh. Le Parisien lui affiche un gentil adios pour saluer l'enfant prodige et insinuer que son départ vers Madrid paraît assuré. Les supporters interrogés par le journal ne cachent pas, eux, leur déception.
Autre départ, beaucoup moins assuré, ceux-là, ceux des vacanciers, en partie gâchés par la grève des contrôleurs de la SNCF.
Si tu pars, je veux que tous les trains du monde restent dans leur gare.
Et justement, comment partir si les trains restent dans leur gare? Johnny n'avait pas la réponse, et les passagers pas vraiment non plus. Un TGV sur deux devrait circuler ce week-end. La grève fait dérailler nos vacances, titre Sud-Ouest. La grève agace les vacanciers, constate le Télégramme de Brest. Galère pour les vacances, grogne Nice matin. Ouest-France, toujours positif, signale que le blocage des trains provoque une ruée sur les bus et le covoiturage. En précisant quand même que les prix explosent pour un Paris-Rennes en car ce week-end, il en coûte 109,99 euros au lieu de 19,99 euros habituellement. Mmh. De son côté, Le Monde souligne la radicalité de cette grève Facebook, comme dit le journal, car les grévistes se retrouvent sur le réseau social pour bloquer le réseau ferré. C'est pourquoi il semble incontrôlable.
Dans ce contexte, Libération publie une intéressante étude de la DARES, la direction des recherches du ministère du Travail. Sous ce titre un peu provocateur, les grèves, plus c'est gros, plus ça paye.
Provocateur ce titre, mais pas faux. Selon cette étude, le niveau de salaire est plus élevé dans les entreprises où les conflits sociaux sont fréquents et longs. La recherche porte sur 3500 établissements entre 2014 et 2019, précise Libération. Il en ressort que les 3% d'entreprises qui connaissent le plus de conflits, grèves, pétitions, manifestations et débrayages, emploient 10% du corps salarial et versent les meilleurs salaires. Il s'agit, relève l'étude, d'anciens et grands établissements de l'industrie et des transports. On peut donc supposer que la SNCF est dans le lot. Libération en déduit, non pas que les cheminots exagèrent de faire grève alors qu'ils sont bien payés, mais qu'ils sont bien payés parce que leur capacité à se mobiliser les protège. C'est ce qu'on appelle une question de point de vue.
L'œuf ou la poule. En première page de l'Opinion, Hervé, il est encore question d'un départ, peut-être d'un exode, celui des Parisiens prêts à quitter la capitale pendant les JO.
Des JO sans Parisiens, point d'interrogation, s'interroge le quotidien libéral. Il est vrai qu'Anne Hidalgo s'est fait remarquer avec son récent appel « Ne partez pas de Paris cet été, ce serait une connerie », je la cite. Mais les contre-signaux se multiplient, écrit l'Opinion, comme la campagne d'affichage qui vient d'être lancée dans le métro sous le slogan « Anticiper les Jeux » et qui recense en fait les stations qui seront à éviter pendant les JO. C'est plutôt dissuasif. Il y a aussi les restrictions de circulation en voiture, l'inquiétude pour la sécurité et la perspective de vouloir louer son logement à prix d'or. Un francilien sur 5 l'envisage. N'en déplaise aux grincheux, il semble quand même que les JO attirent les Parisiens. À ce jour, 46% des billets pour assister aux épreuves, nous dit l'Opinion, ont été achetés en Ile-de-France.
Et un autre départ dans le Figaro, celui de la course à la présidentielle de 2027.
Ah oui, pour monter dans ce train-là, il faut s'y prendre tôt. La bataille de l'après-Macron a commencé, titre le Figaro. Un sondage présente Édouard Philippe comme le mieux placé des macronistes pour 2027. Mais Gabriel Attal n'est pas très loin. Alors, Édouard Philippe affine son plan pour 2027 en sillonnant la France, écrit le Figaro. L'ex-premier ministre traverse les paysages des pays de la Loire à bord de sa Peugeot grise, décrit le journaliste qui l'a accompagné cette semaine. Il a dû croiser celui de Ouest-France puisque le quotidien breton consacre lui aussi un reportage au Tour de France des régions d'Édouard Philippe. À noter que l'ancien premier ministre apparaît en costume-cravate dans Ouest-France et en bottes de paysan dans le Figaro. Je le signale, mais je ne sais pas quoi en déduire.
On termine avec ceux qui ont du mal à partir. Les chefs d'État africains, à l'instar de Macky Sall, le président du Sénégal, qui tentent de faire repousser l'élection de son successeur.
Cette fois, c'est donc la question du départ à la retraite qui est posée. Macky Sall n'est pas le plus âgé des dirigeants africains, il a 62 ans, mais il est président depuis 12 ans et il s'est engagé à passer la main avant de changer d'avis, on le sait, mais le report du scrutin est contesté depuis hier soir par le Conseil constitutionnel sénégalais. Le journal L'Opinion explique que nombre de dirigeants africains veulent être sûrs que leur successeur ne mettra pas en cause l'héritage et n'engagera pas de chasse aux sorcières. Certains ont été balayés par des putschs, comme au Niger ou en Mauritanie, mais au total, la liste des présidents morts en exercice est longue depuis la décolonisation, écrit l'Opinion, comme Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Omar Bongo au Gabon et Yadema au Togo. Sassou Nguesso est toujours là, lui au Congo, comme Paul Biya au Cameroun. Ils ont plus de 80 ans tous les deux. Mmh. Sur ce plan-là aussi, Nelson Mandela, qui a rendu paisiblement le pouvoir en Afrique du Sud en 1999, fait figure d'exception. C'est la preuve que, plutôt que de repousser son départ, il vaut mieux soigner sa sortie.
Et vous soignez les chutes de cette revue de presse. Merci Hervé Gattegno, la revue de presse de Radio Classique tous les jours à 8h30. On la retrouve aussi en podcast sur l'application Radio Classique. Bonne journée. 8h38, Esprit Libre dans un instant. Jean-Marie Colombani et Anne de Guigny avec nous.